Europe 1.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, une émission événement aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. Nous recevons Paul Pavlovitch, alias Émile Ajar. Vous savez, il est l'homme qui a donné son visage à cet auteur inventé de toutes pièces par Romain Gary et il a gagné le Goncourt avec en plus. Exceptionnellement, pas de bibliothèque aujourd'hui pour cette même raison, mais on retrouve les chroniqueurs de l'émission tout à l'heure pour plein de bonnes idées de lecture. La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. On connaît l'histoire. En 1975, le prix Goncourt est attribué à un certain Émile Ajar, inconnu au bataillon pour La vie devant soi. Mais qui est-il ? On lui doit déjà Gros câlin, son premier roman. Ah bah c'est lui, tiens, qui donne une interview. Il existe donc. Et puis, il signe Pseudo et L'angoisse du roi Salomon. Et enfin, en 1981, la supercherie est révélée. Émile Ajar est en fait le pseudonyme de Romain Gary, déjà prix Goncourt pour Les Racines du ciel en 1956. Or, il est interdit de recevoir le prix Goncourt deux fois. Mais alors, qui était l'homme qui donnait les interviews ? Paul Pavlovitch, cousin éloigné de Romain Gary, qui donnera sa version de la mystification dans L'homme que l'on croyait en 1981. Eh bien, Paul Pavlovitch publie Tous immortels chez Buchet-Chastel et revient, apaisé peut-être, on va voir, sur cette incroyable histoire et sur sa vie et sur celle de Romain Gary. Bonjour Paul Pavlovitch.
Bonjour.
Je suis un peu impressionné de vous recevoir. C'est quelque chose quand même.
Oui, moi aussi, je suis impressionné d'être reçu, je vous dis.
Ah bon ?
Oui.
Vous aviez déjà publié dans L'homme que l'on croyait votre version de cette histoire. Voici donc Tous immortels, où vous revenez entre autres sur cette histoire, mais pourquoi maintenant ? Parce que vous êtes devenu son aîné, comme vous dites dans le livre, c'est-à-dire que vous avez dépassé l'âge qu'il avait, 66 ans, quand il est mort ?
Oh, certainement pour ça aussi, mais surtout, je crois, parce que il était temps de conclure par cette histoire peut-être plus vaste qui raconte non seulement l'invention Ajar de Romain, mais le fait que je m'y expose dans la mesure où je parle de tout ce groupe autour de Romain et de Jean Seberg. Je la cite de suite parce qu'elle a été très importante dans nos vies, aussi bien celle de Romain que celle de ce petit groupe qui s'est formé autour de lui, composé en gros, et pour parler rapidement, des gens de ma famille, qui étaient donc aussi les gens de la sienne, de sa famille. Mon grand-père, qui était son oncle, Leslie Blanche, qui était sa première femme, une Anglaise très affûtée, très, très bien pour parler vite, ma femme, mes enfants, etc. Commençant à essayant plutôt de décrire ce groupe de gens qui, autour duquel j'ai gravité et qui m'étonnaient tous, pour dire la vérité, j'ai écrit ce livre qui est ma version faite de mes souvenirs.
Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai reçu le livre et l'attachée de presse, Karine Vincent, m'a appelé il y a quelques semaines, moi, pour me dire « Paul Pavlovitch revient sur l'affaire et tout, il raconte sa vie, etc. » Donc, je me suis dit, moi, j'adore cette affaire, je me suis dit « Génial, je vais apprendre des trucs qu'on ne connaissait pas. » C'est le cas sur l'affaire Émile Ajar. Mais en fait, c'est une biographie. Vous parlez de vous et il y a un moment où un de vos amis vous dit « La manière dont Romain s'introduit dans ta vie m'impressionne. » Et je me suis demandé, en fait, est-ce que, parce que ça devient une sorte de double biographie avec vous, mais aussi Romain Gary qui s'impose finalement. Est-ce qu'il s'est imposé dans votre biographie, autobiographie, ou est-ce qu'au contraire, vous vouliez écrire sur lui et fatalement, vous étiez là ?
En vérité, il ne s'est jamais imposé, mais il se trouve que le mari de ma mère, mon père, comment on dit, biologique, est mort assez tôt dans ma vie. Et ça, ce qui a largement flingué ma mère, Dina, et nous nous sommes retrouvés, elle et ses trois enfants, c'est-à-dire Piotr, mon aîné, Pierre,
Barbara
et moi. Et à cette époque-là, on flottait littéralement à la dérive. C'était tout simple, on était dans cette maison à Nice et plus personne ne dirigeait rien. Et ma sœur Barbara a pris les choses en main. Les femmes savent faire ça. Et aussi bien Piotr que moi, nous nous sommes inclinés, nous l'avons suivi. Mais elle s'usait, elle était jeune et à un moment donné, elle en a eu assez et elle est partie en Angleterre. D'ailleurs, tout comme ma mère 30 ans plus tôt, je parle là de 1953-54. Et donc, pendant plusieurs années, Dina, ma mère, a fait ce qu'elle a pu. Et nous étions dans un état de liberté flottant, faisant ce que l'on voulait. Enfin, je perds peut-être le fil, mais...
Bah, c'est-à-dire que Romain Gary est arrivé aussi... Alors, je voudrais surtout pas faire, et vous m'arrêtez, de la psychanalyse de comptoir juste parce que j'ai lu les 450 pages de vos mémoires. Mais vous étiez complètement par terre après la mort de votre père. D'ailleurs, juste après, il y a un camarade du lycée qui vous demande s'il a bien compris que votre père était mort, qu'il a entendu ça. C'est un peu innocent. Et vous expliquez que vous lui mettez un coup de poing dans la figure plutôt que d'avoir à pleurer. Résultat, vous êtes viré du lycée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent que Romain Gary arrive comme une figure du père ensuite, quoi, de substitution.
Je ne l'ai jamais pris pour un père de substitution, mais j'ai été frappé par cet adulte, d'un côté très élégant, d'un côté plein de tact. Romain était un homme extrêmement doux. Dans la vie réelle, je l'ai assez fréquenté pour le répéter, et en vérité très fragile. Et il a commencé à me parler, comme on dit, d'homme à homme, alors que j'avais 11 ans ou 12 ans, et je l'ai écouté attentivement. Il m'a dit qu'il fallait gagner du temps. Oui. Moi, j'en perdais, je trouvais que c'était à peu près la même chose. Il m'a expliqué succinctement qu'il savait que ma mère était difficile à vivre, mais qu'à côté de la sienne, ça n'avait rien à voir. La sienne était assez terrible. Il n'a jamais parlé comme ça en public, il n'a jamais écrit de cette manière, sauf peut-être dans la version anglaise de La promesse de l'aube, où là, s'adressant aux Anglo-Américains, il est plus direct. Il explique qu'elle était dure, dure, dure. Et effectivement, elle a décidé de son futur. Ce qui est la dernière des choses à faire quand vous avez un enfant, vous devez quand même le laisser trouver sa voie en le soutenant.
Mais c'est vrai que ce que je voulais dire, c'est que vous auriez très bien pu écrire des mémoires magnifiquement écrites par ailleurs, sans, en évoquant Romain Gary, parce qu'il a fait partie de votre vie. Et puis ça a été important pour vous, mais en le mettant un peu de côté, en restant, en le faisant arriver moins. Mais comme dit votre ami Todorov, il s'impose dans votre vie d'une certaine manière quand même. Ben, et dans votre livre aussi.
Oui, probablement qu'il s'est imposé. Je n'ai jamais senti ça de cette manière. J'ai senti simplement que j'avais quelqu'un, adulte, qui réussissait sa vie et qui... par-dessus le marché était écrivain. À cette époque-là, il était au troisième ou au quatrième roman qu'il écrivait. Et il s'agissait d'un livre contant l'histoire de gamins pendant la guerre qui gravitait autour d'une vieille canaille, comme ça, un très beau livre que j'ai lu dans les années 50, peut-être un peu tôt, mais ça m'a extrêmement impressionné. J'ai trouvé que c'était un livre formidable, qui d'ailleurs n'avait pas eu de succès en France, pour des raisons probablement culturelles. Et à partir de là, c'est vrai qu'il... Du moins, je me suis mis dans la situation de connaître ou de croire connaître Romain, alors que la mémoire de mon père s'effaçait lentement. Et ça s'est déroulé pendant toutes les années 50, quand il descendait dans sa petite maison de Roquebrune, il passait à Nice visiter ma mère qui avait une bijouterie, et je les entendais parler en russe, et comme j'étais un peu secoué, moi, à cette époque-là, je parlais peu, et ça lui convenait. Ça lui convenait, donc il me demandait toujours de le suivre lorsqu'il circulait à Nice, voir d'anciens copains à lui, d'avant-guerre, etc. Et comme je vous dis, peu à peu, c'était devenu une référence, oui.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Vous êtes toujours sur Europe 1, c'est un bon choix à mon avis, et toujours avec Paul Pavlovitch, alias Émile Ajar.
Le prix Goncourt 1975 a été attribué au 8e tour à Monsieur Émile Ajar pour son roman intitulé « La vie devant soi ». Au dernier tour, Didier Decoin et Patrick Modiano ont obtenu respectivement 3 voix et 1 voix.
Didier Decoin et Modiano, les petits jeunes, l'un est devenu le président de l'Académie Goncourt et l'autre a eu le prix Nobel de littérature depuis. Et Romain Gary réagit ensuite.
C'est un garçon d'une extrême gentillesse et d'une extrême douceur, un des plus gentils qu'on puisse imaginer. Ce qu'on appelle, messieurs, d'un mot qu'une certaine presse aime beaucoup employer, c'est ce qu'on appelle un marginal. Je crois que il a je n'aime pas les mots de problèmes psychologiques, il a une situation psychique à lui qui fait qu'il s'estime qu'il ne peut pas supporter la dépersonnalisation par un excès de notoriété. Qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Tout ça, tout ce qui se passe aujourd'hui prouve que lorsqu'on veut préserver sa vie privée, on a tort de publier.
Encore une question, Romain Gary. Certaines personnes ont laissé entendre, ou voulu croire...
Les questions les plus franches, alors allez-y, ne tournez pas...
Qu'il y avait un du rewriting, que l'œuvre était...
Non, merde. Merde et merde. Okay. Rewriting par qui ?
Merde. On n'a pas envie de se faire engueuler par Romain Gary. Il faut qu'on revienne sur cette histoire quand même. Est-ce que moi j'apprends en lisant votre livre « Tous immortels » chez Buchet-Chastel, qui revient aussi sur cette histoire, mais pas seulement, c'est qu'en fait, ça ne s'est pas fait comme ça d'un seul coup. Il ne vous a pas convoqué pour vous dire « Bon, mon vieux », parce qu'il vous appelle toujours « mon vieux » ou « cher vieux ». Maintenant, tu vas être Émile Ajar parce que je vais écrire sous pseudonyme et comme je me fais démolir par la critique, on va voir si je change de nom, ce que ça change. C'est pas comme ça que ça s'est fait.
Non, du tout. Ça s'est fait avec un étrange naturel, c'est-à-dire que nous étions dans une période, là, début des années 1970, où Annie, ma femme, comme moi, Jean et Romain...
Jean Seberg.
Jean Seberg et Romain étions devenus proches, très proches. J'avais passé mes années d'étudiants à partir de 1960-62 à Paris, dans les chambres de service, comme on disait quand on était poli, et en fait les chambres de bonne qu'ils nous avaient prêtées. Et Romain a été excédé d'être fusillé à la sortie de chacun de ses romans, comme ça. Pour des raisons probablement culturelles, il s'était trouvé des ennemis dans le monde littéraire de l'époque qui lui en voulaient. qui lui en voulait, qui n'avait pas compris quel genre de type il était, et qui, effectivement, s'évitait un effort de lecture, et à la sortie d'un livre, il n'avait pas besoin de le lire pour le descendre, vous comprenez ?
Et on racontait même que Albert Camus réécrivait les livres de Romain Gary, qui était une autre manière de dire que Albert Camus, lui aussi,
ne valait rien. Oui, tout à fait. Il y avait là, c'était pas un complot, mais c'était réellement le sentiment de beaucoup de gens. Et Romain, à partir de 63 ou 64, a quitté le service du consulat, le service diplomatique. Et à ce moment-là, il a perdu quelque chose d'essentiel dans cette réalité qu'il combattait comme écrivain. Il avait cette réussite de consul général qui lui donnait des habits de sortie très convenables, qui faisait de lui un type respectable et relativement respecté, même au Quai d'Orsay, où qui était ce qu'on appelait l'église, c'est-à-dire un endroit un peu pénible, un endroit où on n'aimait d'ailleurs pas un type comme Romain, puisque il était devenu diplomate à la Libération, quand il y a eu une sorte de purge interne au Quai d'Orsay, et il a commencé une carrière lentement, et il a eu la chance de rencontrer quelques amis
Vous racontez d'ailleurs les débuts de Romain Gary en littérature, ça se fait pas comme ça non plus. Hein.
C'est très difficile, très lent. Romain se cherchait. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il se chercherait tout le temps, et que de livre en livre, s'était développé chez lui la conviction que c'est le prochain livre qui va le faire vivre. Romain vivait au futur.
Mais alors justement, dans le futur, vous en arrivez à devenir Émile Ajar, la personnification d'Émile Ajar?
Alors là, on est en 1973, il m'explique grâce à nos rapports réellement agréables et proches, il m'explique qu'il en a marre. Il en a réellement marre d'être fusillé dès la sortie par des gens qui font l'économie de le lire. Par ailleurs, en 1960, il s'est passé ce grand drame, c'est qu'il a perdu son éditeur, qui était Michel Gallimard, non pas fils de Gaston, mais neveu de Gaston. Je souligne ça parce que dans cette dynastie, il se trouve que... Comment expliquer ça ? Il se trouve que... on met les enfants en action. Le père, le seul Gallimard, le seul type que l'on appelle par le nom de l'invention, là, en l'occurrence, c'était Gaston. Gaston avait choisi Michel parce que Michel était un véritable éditeur. Or, dans une dynastie, en règle générale, regardez la maison d'Angleterre, la maison royale, on ne choisit pas à l'extérieur. On prend le descendant immédiat, mais on ne le forme pas. Et il s'est trouvé, je ne veux pas insister, sembler critiquer les éditeurs de Romain, mais quand Albert Camus et Michel Gallimard ont trouvé la mort dans cet accident, 1960, Romain a été perdu, là. Il a continué de travailler et d'écrire, mais il ne disposait plus d'un auteur capable de le piloter pour trouver la forme finale d'un roman. C'était très important, et donc il a nagé tout seul. Et comme je vous disais, il n'était plus diplomate, et en 73, réellement excédé par cette situation, un jour il me raconte ce qu'il a décidé de faire. Et ce qu'il avait décidé de faire, c'était d'inventer un auteur. ce qui était encore une nouveauté dans ses choix personnels. Et je l'écoutais avec intérêt, je me disais, ce type va prendre tous les risques. Il a une réputation, il est compagnon de la libération, il est ceci, il est cela. Et là, il va jouer même contre son éditeur. En fait, il était convenable, il a fait présenter son manuscrit, je parle de Gros Câlin, à la maison d'édition, à sa maison d'édition, chez Gallimard. Et moi, je suivais ça dans le rôle de confident amical.
Vous n'êtes pas encore Émile Ajar. C'est pas avant d'écrire qu'il dit « je vais faire ça et toi, tu seras la personnification ». C'est ensuite que ça vient.
C'est ensuite que ça vient avec réellement pas mal de naturel, c'est-à-dire de confident discret. Eh bien, ça y est, je passe progressivement, à l'occasion de quelques innovations dans son invention, comme acteur.
Et les critiques sont, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, mais voilà. Tout à coup, on a besoin de l'incarner, parce qu'il faut donner notamment des interviews. Et voilà. Comment on fait, et qu'est-ce que vous vous dites quand vous partez donner une interview sur un livre que vous n'avez pas écrit?
Comment ça m'embarrasse pas, parce que je ne prenais pas ça encore au sérieux. Je trouvais que c'était une invention assez géniale, et je l'admirais déjà parce que là, il y avait de véritables risques. Par exemple, que la maison d'édition, pour se blanchir de toute responsabilité, si l'affaire éclatait que c'était lui, l'auteur, qu'elle se porte partie civile, je ne sais pas, qu'elle proteste de son innocence, c'est-à-dire qu'elle laisse tomber son auteur.
La voix est libre.
Nicolas Carreau.
Vous êtes toujours sur Europe 1. Mon invité aujourd'hui, c'est Paul Pavlovitch, qui publie « Tous immortels » chez Buchet-Chastel, l'histoire de sa vie et donc, puisque c'est ainsi, l'histoire aussi de Romain Gary et d'Émile Ajar, puisque Paul Pavlovitch a incarné, a personnifié Émile Ajar, qui était le pseudonyme de Romain Gary, avec lequel il a gagné pour la deuxième fois le prix Goncourt. C'était pour La vie devant soi. On croise aussi toute une galerie de personnages, on va y revenir, mais on termine sur l'affaire Émile Ajar. On dit l'affaire Émile Ajar comme si c'était un truc de délinquant. Pas du tout. Au départ, c'est un moyen pour Romain Gary d'échapper à la critique systématique. Et puis, pour vous, c'est un peu à la fois un truc immense par le courage de Romain Gary que ça suscite chez vous, de l'admiration que ça suscite chez vous, mais c'est aussi un peu rigolo, quoi. C'est un peu une plaisanterie. Une plaisanterie qui, tout doucement, va quand même mal tourner. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il vous fait même signer à un moment, Romain Gary, des feuilles blanches.
Oui.
Mais en fait, c'est pour dire que vous n'êtes pas l'auteur de tous ces livres-là, si jamais vous décidiez un jour de revendiquer cette œuvre. Mais le symbole de vous faire signer des feuilles blanches, c'est incroyable.
Oui. Ce qu'il avait vu son avocat personnel.
C'est ce que vous faites quand vous
donnez
Émile Ajar, c'est que vous signez des feuilles que vous n'avez pas écrites.
Oui, oui. Mais ça, c'était quelque chose que je pouvais comprendre. Le type, mon oncle, comme il se faisait appeler, avait la trouille.
Complètement paranoïaque, même à un moment, en fait.
Oui, à un moment donné, ça a basculé dans la paranoïa, c'est-à-dire qu'il a rencontré son avocat personnel, parce que là, il y a aussi, dans les coulisses, toute une série d'avocats, d'hommes d'argent, de bonhommes plus ou moins respectables, qui rappliquent et qui donnent des conseils, de bonhommes et de bonnes femmes. Donc, rencontrant son avocat personnel, celui-ci lui suggère de me faire signer des feuilles blanches. Je n'avais aucune réticence à le faire. Il n'était jamais passé par ma tête de spolier ce bonhomme de son œuvre. En aucun cas. J'avais pas 30 ans. C'était pas mon propos de...
Puis c'est un boulot.
C'était un boulot, c'était une occasion de...
Y compris parce que vous tapez aussi ces textes à la machine, donc ça ou autre chose, bon...
Oui, non, c'était pas du tout mon enjeu, mais... écoutez, vous comprenez, on était au début des années 70, comme ça, 73, Gros Câlin allait sortir ou venait de sortir, et Gene Seberg achevait une carrière... en quelque sorte, elle aussi, sabotée par une réputation de supporter de la cause des Noirs, entre les pattes du FBI manipulé par Hoover, fondateur et véritable canaille de cette administration du renseignement. Et Romain voyait Jean... parcourir ses dernières années de vie avec de plus en plus de difficultés. Et alors voilà qu'il invente en même temps sa dernière aventure, c'est-à-dire on va inventer un auteur. Il misait là-dessus pour pouvoir bien vivre. Mais il s'est rendu compte que, avec mon apparition sur la scène, les choses ne marchaient plus comme il les avait imaginées. Et on arrive très vite à une querelle assez cruelle entre lui et moi. Et il écrit à ce moment-là, pour se dédouaner d'abord, pour se couvrir, Pseudo. Et à la sortie de Pseudo, il m'envoie un petit message en me disant « Tu vois ?» Là, ils ont tout compris. Ils disent que ce ne peut être que toi pour avoir écrit ce livre insensé, etc.
Mais il y a de la culpabilité chez lui aussi. Il l'écrit dans les sources de je ne sais plus qui le livre, mais vous les retranscrivez dans votre livre, où il dit « c'est peut-être dangereux de demander à Paul d'avoir joué ce rôle et j'éprouve de la culpabilité ». C'est ce qu'il dit.
On se tenait à distance après Pseudo parce que l'affaire avait été trop rude entre nous, mais en même temps, il n'était pas question de trahison possible, il n'était pas question de retirer ses billes du jeu. Pour moi, ça continuerait, effectivement, ça a continué jusqu'au moment où il écrit L'angoisse du roi Salomon, dernier opus de Émile Ajar, suivi immédiatement dans la parution par son dernier livre de Gary, à savoir Les cerfs volants.
Oui.
Dans l'angoisse du roi Salomon, il expédie le vieux Salomon à Nice avec une amoureuse extrêmement équivoque qu'il avait balancée aux Allemands pendant la guerre. Il était caché dans une cave et là on retrouve le trou juif. Mais ça fait rien, Salomon s'avoue vaincu et fiche le camp à Nice, ville particulièrement bien choisie pour y crever, en vérité. Et il lâche ses cerfs-volants et il a fait le tour complet de son ouvrage. Il a tout fini. Entre-temps, il a réajusté les relations entre chacun de ses romans. Chez Gallimard, il ne voyait pas. Il ne comprenait pas pourquoi il refaisait une version améliorée de tel ou tel titre. Depuis le tout début, Romain écrivait en fait une cohérence entre ses romans. Il fermait son œuvre. Et ça, avec le temps, je commençais à comprendre. Et donc, mon admiration était intacte.
Oui, mais le problème, c'est que vous n'étiez pas juste un type qui passait par là, à qui il a demandé un service, ou même qu'il a payé pour faire un boulot et se faire passer pour Émile Ajar. Le problème, c'est que d'abord, vous étiez proche de lui, et qu'ensuite, vous étiez vous-même écrivain, en fait. Et donc, c'est compliqué, peut-être, d'accepter cette situation au bout d'un certain moment. Je vous ai revu chez Pivot, à l'époque de La Révélation, en 81. Vous êtes hyper détendu et tout, et on a l'impression que ça s'est bien passé, etc. Mais quand on lit votre livre, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Comment aujourd'hui, quand vous flânez comme ça, quand vous vous baladez, y compris sous la neige, ce que vous en parlez dans le livre, à quoi est-ce que vous pensez, comment vous pensez à cette histoire ? Avec un petit sourire ou avec un peu de... ressentiment.
Après la mort de Romain, j'ai subi quelques avanies. C'est-à-dire que les gens qui n'aimaient pas Romain se sont tus, mais ils continuent, pour la plupart, ceux qui ne sont pas encore morts, ils continuent de ne pas l'aimer. Simplement, 50 ans après sa mort, on se tait là-dessus parce qu'on n'est pas dans le coup.
Mais moi, quand vous y repensez,
de toute façon, c'est un type que j'ai toujours aimé tendrement. J'ai toujours aimé tendrement Romain. C'était un bonhomme au poil, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Il était insensé. C'était un auteur qui a su patienter, qui a créé autre chose. Pour moi, ça a été un apprentissage. Un apprentissage un peu tordu, un peu compliqué comme ça, mais encore une fois, vu les risques majeurs qu'il courait, du genre destitution, place des invalides, des trucs horribles tels qu'on pouvait les imaginer, il y est allé à fond, et cette capacité à prendre des risques qu'aucun consul n'aurait jamais pris, vous comprenez ? Ça m'a bluffé tout le long.
C'est dingue.
Alors, oui.
Je vous parle de vous, vous repartez toujours sur Romain. Comme dans le livre, en fait. Quoi.
Non, je ne cherche pas à me dissimuler.
Non, mais...
J'ai eu une vie largement involontaire, qu'est-ce que vous voulez. Mais je sais bien que je ne suis pas le seul.
Une vie involontaire, quel titre c'était aussi, ça. Magnifique. Je voulais juste signaler qu'il y a, et on l'entend, aucune aigreur dans ce livre et beaucoup d'amour. Et je voudrais qu'on termine en parlant d'un amour particulier que vous aviez pour Jean Seberg.
Vous avez
raison.
Elle
est très présente dans le livre, c'est un personnage très important.
Cette jeune femme était un cadeau, qu'est-ce que vous voulez. Elle était incapable de la moindre aigreur, incapable de tenter de se venger ou de remettre les gens à leur place. Elle a été détruite par les hommes. Elle a été détruite par les hommes, à commencer par son premier metteur en scène, Otto Preminger, qui était littéralement imbuvable et qui, en l'espace de deux films, l'a cassée.
Mais vous l'aimiez ?
Moi, je l'aimais de suite. De suite, je l'ai aimée. Je trouvais qu'elle était drôle. Elle avait une grande intelligence. Et elle s'est retrouvée avec un type comme Gary. Et elle a cru longtemps que Gary était un homme fort. Elle a compris assez vite que non, il était faible, qu'il connaissait rien à la réalité, en dehors de ses capacités de diplomate. Bon, c'était un homme qui ne savait rien faire de pratique. Et Jean a été très patiente. Et puis un jour, il lui a réglé son compte avec Chien Blanc, livre où il raconte... ce qui se passe dans la vie de Jean durant les années 60, tandis qu'elle soutient les Noirs. Voilà.
Tous immortels, c'est un livre sur votre histoire, mais aussi pour l'histoire, avec un grand H.
Merci.
C'est chez Buchet-Chastel. Merci infiniment, Paul Pavlovitch.
C'est moi qui vous remercie.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Caro.
La Voix est libre continue et toute l'équipe de chroniqueurs est prête pour vous donner des bonnes idées de lecture avec Héloïse Goy, comme toujours, littérature jeunesse. Bonjour Héloïse.
Bonjour Nicolas.
Sébastien Bordenave pour la bande dessinée, comment ça va ?
Bonjour Nicolas, ça va bien.
Et l'immense, le magnifique Stanislas Hugo, librairie Lamartine, Paris 16e. Bonjour Stan.
Bonjour Nico.
On commence avec vous.
Alors... Oui, donc ben, en fait j'ai choisi, il y a énormément de bonnes choses. C'est la rentrée, on a plein de pauvres en français, en étranger, des têtes d'affiches, des découvertes. Et je vais vous parler d'une découverte. Alors l'auteur est plutôt du genre confirmé visiblement, et moi c'est la première fois que je le lis. Je suis tombé dessus un peu par hasard et j'ai adoré ce livre. C'est Emmanuel Venet chez Gallimard pour La lumière, l'encre et l'usure du mobilier.
D'accord.
Oh. Alors,
j'aime bien.
Joli titre, un petit peu mystérieux. Et en fait, donc, c'est un livre qui se présente sous la forme d'un abécédaire. Un abécédaire dans lequel l'auteur, qui est aussi psychiatre, et ça a son importance dans l'écrit, va donc nous raconter en gros plus ou moins un peu sa vie, plus ou moins les auteurs qu'il aime, des considérations sur plein de sujets différents. Voilà. Bon, dit comme ça, vous allez me dire, ça me fait pas frétiller, je comprends, hein, moi non plus. Bon, mais le livre est canon. Et le livre est canon, pourquoi ? Parce que d'abord, c'est brillamment écrit. Ensuite, l'érudition qu'il y a dans ce livre, il vous la donne. Donc ça, j'aime beaucoup ce genre d'ouvrage, un peu des ouvrages de passeurs.
Ouais, ça se la joue pas, quoi.
Ça se la joue pas, ça, c'est, en fait, il y a quelque chose de très charnel dans cette transmission, en fait. En plus, non seulement c'est brillamment écrit, mais c'est souvent drôle. Il y a des passages mais remarquables, notamment parce que il va revenir sur son enfance. Il est dans la ville de Lyon, sa famille, une famille très bien, ses parents sont très bien, mais sa mère aime beaucoup certaines bigoteries. Et il y a des passages très très drôles sur les vrais faux saints de la culture populaire, notamment.
Alors, il y a des passages poignants.
Oui.
Ah oui.
Et ça y est, oui, bien sûr.
Parce que Héloïse Goua a fait une tête. Comment ça...
On s'est tous demandé si vous alliez bien, Stan.
Alors, les autres sont quand même évoqués à un autre moment, mais bon, on en reparlera plus tard. Mais voilà, il y a en fait chaque petit chapitre, donc ça commence par A comme auberge, ça termine par Z comme Zweig. Chaque petit chapitre se replie sur lui-même et en même temps va créer un pont avec l'autre. C'est un petit bijou de littérature. Vous vous sentez, je sais pas, je me suis senti mais heureux à la fin de ce livre. L'impression d'avoir été élevé à sa manière avec lui, d'avoir fait effectivement un bout de course avec cet auteur que je ne connaissais pas, qui a écrit visiblement plusieurs ouvrages chez Verdier notamment. Et c'est, voilà, moi je vous le conseille plus que chaleureusement. C'est voilà, une espèce d'outsider de cette rentrée littéraire, mais qui vaut beaucoup des gros poids lourds, oui.
Parfait, vous nous redonnez ce titre fabuleux et le nom de l'auteur.
Alors, La lumière, voilà, La lumière, l'encre et l'usure du mobilier de Emmanuel Venet chez Gallimard.
C'est parfait, merci beaucoup Stan. Héloïse Goua, c'est à vous.
Et oui, je vous parle d'écologie aujourd'hui avec une petite encyclopédie adressée aux enfants. Une encyclopédie inspirée de la célèbre émission de France Télévisions pour les enfants. Ah. Vous reconnaissez, ça a bercé mon enfance, ça s'intitule « C'est pas sorcier, sauver la planète ». Je précise que la fabrication de ce livre sur l'écologie est éco-responsable, c'est-à-dire que l'ouvrage a été imprimé avec des encres végétales sur du papier issu de forêts gérées durablement. Bah oui, sinon ça marche pas. Qui dit encyclopédie dit souvent question-réponse. Alors je vais un petit peu tester vos connaissances, messieurs, en termes d'écologie, parce que moi j'ai appris plein de choses dans ce petit livre illustré. Première question, top ces dernières 50 années, de combien de centimètres le niveau de la mer a-t-il augmenté ?
15. 5.
Vous n'êtes pas loin, 10 centimètres. Oh bah. C'est bien sûr dû au réchauffement.
J'ai dit 5, il a dit 15,
d'accord.
C'est 10.
Vous êtes comme des enfants, voilà. Vous avez raison tous les deux. Vous avez raison tous les deux.
Ensemble.
une augmentation bien sûr due au réchauffement climatique qui provoque la fonte de la banquise et des glaciers. On continue. Top selon les prévisions des spécialistes, quelle température fera-t-il à Paris le 18 août en 2050 ? Donc dans un peu plus de 20 ans.
42.
Ouf, 37.
42.
Mais vous me refaites le coup, 40 degrés. Donc c'est vous qui êtes le plus proche,
mais
Nicolas.
Non, mais on a
un
raison ensemble, on est une équipe fou, avec Sébastien.
Ouais, c'est ça. Une autre question qui concerne davantage les adultes que les enfants. Citez-moi plusieurs gestes utiles pour réduire votre pollution numérique. Est-ce que vous savez ce qu'on peut faire ? Pollution numérique.
Plutôt d'envoyer un mail ?
Oui, éventuellement.
Vider la corbeille de ses mails, non ?
Je sais pas.
Ah si, de ses mails, absolument. Oui, je pensais que vous parliez de votre bureau d'ordi, de ses mails.
Oui, absolument.
On peut aussi se désinscrire des newsletters, sauf celle d'Europe 1, naturellement. Effacer des mails au fur et à mesure, vous l'avez dit, Nicolas. Éviter d'ouvrir plusieurs pages en même temps dans son moteur de recherche.
Bon,
ça, je l'ignorais. ça consomme beaucoup d'énergie. Parce qu'en fait, l'encyclopédie nous rappelle que si la pollution numérique ne produit pas de déchets visibles, elle a un vrai impact sur le réchauffement climatique. Les messages qui dorment dans nos boîtes mail sont en fait stockés dans des centres de données très gourmands en énergie. Chauffe. C'est ça. Vous voyez, l'encyclopédie... Bon, vous êtes assez fort, mais moi, j'étais un peu à la ramasse. L'encyclopédie est adressée aux enfants de 6 à 10 ans, mais ça fait jamais de mal aux adultes aussi. Une petite piqûre de rappel. Cette encyclopédie nous propose aussi d'adopter des petits gestes au quotidien qu'on n'a pas forcément en tête. On nous conseille par exemple et aux enfants d'utiliser des crayons de couleur plutôt que des feutres en plastique, beaucoup plus polluants. Et en plus de toutes ces informations et des 150 questions-réponses, vous trouverez à la fin du livre des pages de jeux, des rébus, des quiz, des devinettes, des labyrinthes. Il y a aussi un petit glossaire. Cette encyclopédie est ludique, très bien construite et joliment illustrée. Ça s'appelle « C'est pas sorcier, sauver la planète ». C'est écrit par Mathilde Paris et c'est publié aux éditions De Coq d'Or.
Pour les 6-10 ans, c'est marqué.
Mais les chiffres que vous avez donnés au début sont fous quand même. 10 cm de...
Et 40 degrés en 2050.
Bah, incroyable. On rigole, on fait des quiz, on rigole.
Ouais, bah, je rigole pas tant que ça. Non.
Sébastien Bordonnat, vos bandes dessinées, c'est crayon de couleur ou crayon feu?
Eh ben, on est un peu dans la thématique. Deux BD, deux salles, deux ambiances. J'ai quand même choisi une thématique jeune adulte ce dimanche. La première s'appelle Eddy et Noé, plus chaud que le climat.
Ah, voilà. On est vraiment raccord dans
exactement.
Cette équipe.
Exactement. C'est un tome 1. J'aime pas beaucoup ça, les BD en plusieurs tomes. Mais là, faut avouer que c'est fichtrement bien écrit et très sympathiquement dessiné. C'est la BD de cette nouvelle génération. Vous savez, celle qui pense qu'on peut, on peut encore sauver la planète. Ah, la jeunesse. C'est l'histoire de Eddy, donc, une blondinette fonceuse, franche et fine d'esprit. Son voisin, c'est le jeune Noé, un garçon brun, ébouriffé et ébouriffant, sensible et sympa. Ces deux-là sont amis, mais bon, on sent bien qu'il y a comme un petit truc mignon naissant entre eux, jusqu'à ce que la jolie Sarah débarque dans le trio. Bon, en fait, leur vraie préoccupation, c'est quand même d'abord le fait qu'on va tous cramer sur cette planète si on ne fait rien. Alors, ils commencent à leur niveau. Ils demandent au directeur du lycée de pallier à l'absence de poubelles, d'instaurer un tri à la cantine, de faire en sorte que les radiateurs arrêtent de goûter. Forcément, ça plaît moyen au directeur. Leur relation ne va pas aller en s'apesant, loin s'en faut. Alors, ce qui est super agréable avec cette BD Eddy et Noé, c'est qu'on hésite furieusement entre les observer dans leur combat perdu d'avance, ou au contraire, entrer avec eux dans la bataille et redevenir les utopistes que nous fûmes. C'est édité chez Sarbacane et ça s'appelle Eddy et Noé. La deuxième BD...
C'est pour les enfants et les adultes, celle-ci?
Enfants, jeunes adultes, tout le monde. Non, c'est vraiment tout le monde, c'est tout public. C'est vraiment sympa. La deuxième BD, bah alors là, c'est au-delà de sympa. C'est franchement une tuerie. L'ambiance, c'est un peu Stranger Things. J'ai jamais réussi à le dire.
Stranger Things.
Voilà. On sent que le surnaturel va surgir et d'ailleurs, il le fait. L'héroïne principale s'appelle Friday Fitzhugh. Il y a quelques années, elle avait pris la défense de Lancelot Jones, un garçon au charme rêveur. Entre eux, encore une fois, il y a des sentiments qui ne disent pas leur nom. Bon, eux, ils ont quand même essayé d'aller un peu plus loin que le flirt, mais ça a fait pchit. Ce qui les préoccupe, c'est que leur ville de King's Hill est le théâtre de phénomènes inexpliqués. Pour preuve, le fils du plus gros notable de la ville a un comportement super chelou. Alors qu'il neige, il gratte en pleine nuit sur un arbre des inscriptions sans queue ni tête. Clairement, on a envie d'en savoir plus, d'avoir les réponses aux moult mystères qui surgissent dans le scénario de Ed Brubaker. Les dessins sublimes sont de Marcos Martin qui bosse souvent avec Marvel. Et je cite aussi les couleurs de Mutsa Vicente, une espagnole qui, elle aussi, donne des couleurs aux super-héros de Marvel et de DC Comics. Belle équipe, super BD que Friday, c'est le tome 1. Normalement, il y en aura 3 des tomes.
Il ne faut pas confondre avec Wednesday.
Ouais.
C'est chérie de Tim Burton.
Et Glenna, merci beaucoup. Héloïse Gua, vous nous rappelez quand même...
C'est pas sorcier, sauver la planète de Mathilde Paris aux éditions De Coq d'Or.
Et le roman de Stanislas Rigaud, je rappelle, La lumière, l'encre et l'usure du mobilier, c'est chez Gallimard d'Emmanuel. Venez, vous n'avez pas une citation?
Si, j'en ai une, toujours sous le coude. Une citation qu'on doit à Robert et Raymond Bidochon. Raymond décide de se reprendre en main physiquement. Elle annonce à son mari « Eh ben, je t'annonce que dans 15 jours, tu auras dans ton lit une femme au corps de rêve. » Son mari répond « Ah bon, mais tu seras où, toi ?»
C'est dur.
Merci à tous les trois, en tout cas. Merci aussi à Agnès Vaudin pour la préparation de cette émission, à Grégory Delpeuch pour la musique, à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, pour la réalisation. Dans un instant, Didier Barbelivien, dis-moi ce que tu chantes. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.